Appel sur l'actualité avec Orange Money, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient. Appelez-nous, exprimez-vous sur l'actualité dans 30 minutes comme tous les matins. Nous lancerons un débat et nous parlerons tout à l'heure de l'avenir de Robert Mugabe. Après 36 ans au pouvoir, le président du Zimbabwe est de plus en plus contesté. Il est accusé de ruiner l'économie du pays. Ces derniers mois, les manifestations se sont multipliées pour réclamer sa démission. D'ailleurs, récemment, il a perdu le soutien des anciens combattants de la guerre d'indépendance, ces vétérans qui n'hésitent plus à dénoncer publiquement, je cite, le régime dictatorial de Mugabe. Et la semaine dernière, le président du Zimbabwe a même subi un camouflet puisque la justice a levé l'interdiction de manifester dans la capitale. L'opposition va donc reprendre ses marches contre le régime. Alors, est-ce la fin de l'ère Mugabe ? À 92 ans, doit-il démissionner comme l'exige la société civile ? Nous en parlerons ensemble. Vous nous appelez évidemment, vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70 09 693 693 1370 si vous êtes à Paris et vous continuez à poster vos réactions sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission. Mais d'abord, comme tous les matins également, votre rendez-vous avec la rédaction des RFI, ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. On va commencer avec des questions sur le pèlerinage à la Mecque. Joachim, bonjour.
Bonjour, Juan.
Bienvenue sur notre antenne, vous êtes à Lubumbashi, donc il y a toujours ce petit décalage de téléphone, Lubumbashi dans le sud-est de la République démocratique du Congo, on vous écoute.
Pourquoi il n'y aura-t-il pas de citoyens iraniens au pèlerinage de la Mecque cette année? Est-ce les tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran sont-elles une menace pour le pèlerinage de cette année?
Alors c'est vrai que près de 2 millions de fidèles venus du monde entier ont entamé samedi le Hajj en Arabie Saoudite. Bonjour Nicolas Falaise.
Bonjour.
Journaliste au service international des RFI. Et pour la première fois depuis près de 30 ans, les Iraniens sont privés de pèlerinage. D'ailleurs vendredi, ils étaient des milliers à manifester dans les rues de Téhéran en scandant qu'ils ne pardonneraient jamais à l'Arabie Saoudite leur exclusion du pèlerinage. Que se passe-t-il ?
Alors c'est à la fois une conséquence du drame de l'année dernière à la Mecque et une conséquence aussi des très mauvaises relations entre les deux pays. On se souvient que l'année dernière, à la Mecque, une bousculade a causé la mort de plus de 2300 personnes, dont 450 Iraniens, probablement le pays le plus touché par le drame. Et depuis, Téhéran accuse l'Arabie Saoudite, les autorités saoudiennes, de négligence coupable dans l'organisation du pèlerinage et de certains de ces rituels à la Mecque. Depuis ce drame, il y a eu des négociations, notamment en mai dernier, entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, pour tenter de sécuriser le pèlerinage. Pèlerinage 2016, celui qui se déroule en ce moment pour les pèlerins iraniens. Et ces négociations ont échoué. Alors, l'Arabie Saoudite affirme qu'elle a répondu aux demandes de l'Iran, notamment la délivrance de visas électroniques sur le territoire saoudien. L'Arabie Saoudite affirme que les Iraniens demandaient le droit d'organiser des manifestations politiques durant le pèlerinage à la Mecque. L'Iran affirme au contraire que l'Arabie Saoudite n'a pas satisfait ses demandes concernant la sécurité des pèlerins. On voit bien que les deux pays ne sont pas d'accord, y compris sur les raisons de l'échec de ces relations. À l'arrivée, pas de pèlerins iraniens cette année à la Mecque. La vraie raison est peut-être ailleurs, la très mauvaise relation des deux pays dans la région, opposée sur tous les dossiers, Syrie, Yémen, etc. Relations diplomatiques qui ont été rompues en janvier dernier, pour une autre raison, mais les négociations avaient eu lieu d'ailleurs en l'absence de relations diplomatiques puisqu'elles sont rompues et ces négociations n'ont pas permis d'organiser le pèlerinage 2016 des pèlerins iraniens.
Et la semaine dernière, le ton est monté puisque le guide suprême d'Iran, Ali Khamenei, a estimé que la famille royale saoudienne ne méritait pas de gérer les lieux saints de l'islam. On sait que l'organisation du pèlerinage de la Mecque est un vieux contentieux entre les deux pays. Et le grand moufti d'Arabie Saoudite a lui affirmé que les Iraniens n'étaient pas des musulmans. Est-ce que ces tensions entre l'Arabie Saoudite et l'Iran peuvent menacer le pèlerinage cette année?
Alors, on peut dire plusieurs choses concernant le pèlerinage qui se déroule en ce moment même. La première chose, c'est que jusqu'ici, tout va bien. L'Arabie Saoudite a annoncé des mesures de sécurité renforcées. On est là dans le moment critique, celui du rituel de la lapidation des stèles représentant Satan. C'est le moment où il y avait eu la bousculade meurtrière l'année dernière. espérons que tout se passe bien dans les prochaines heures. Pas de pèlerins iraniens à la Mecque, on l'a vu. Le sujet finalement, c'est celui du pèlerinage de l'année prochaine et des années qui viennent. L'Iran et l'Arabie Saoudite vont-ils reprendre le fil du dialogue pour tenter de surmonter ce différend ? On voit bien que c'est un enjeu politique entre les deux pays. Bien sûr, il y a de très nombreux fidèles iraniens qui veulent accomplir le pèlerinage. Ils étaient 60 000 l'année dernière. C'est donc une responsabilité pour l'Iran de ne pas envoyer ses pèlerins. Mmh. Et c'est une responsabilité très lourde pour l'Arabie Saoudite d'apparaître comme un pays qui barrerait l'accès du principal lieu saint de l'islam aux ressortissants d'un pays souhaitant effectuer ce pèlerinage qui est l'un des piliers de l'islam.
Merci beaucoup Nicolas Falaise d'être venu répondre à Joachim qui nous appelait donc de Lubumbashi. Il est 10h15 ici à Paris. Ce sont vos questions pour mieux comprendre l'actualité. Désiré, bonjour.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Liverpool en Grande-Bretagne et vous avez des questions concernant l'affaire dite des biens mal acquis.
Voilà, c'est ça. Donc en fait, c'est les biens mal acquis concernant le fils du président de la Guinée équatoriale. Donc il a été renvoyé en procès en France. Et pour cela, je voudrais savoir pourquoi l'immunité diplomatique en tant que vice-président de la Guinée équatoriale, qu'il a tant réclamé, lui a été refusée. Puis, ce procès, peut-il ouvrir la voie à d'autres procès ou pas ?
Alors, après 5 ans de procédure, c'est vrai que Théodorin Obiang Nguema est finalement renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris. Raphaël Rennes, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez ce dossier pour la rédaction des RFI. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, le fils du président équato-guinéen a contesté sa mise en examen, invoquant justement son statut de vice-président du pays.
Oui, il continue de le faire d'ailleurs. Il continue de le faire devant les plus hautes instances mondiales, j'ai envie de dire, devant la Cour de la Haye, qui est la plus haute instance de l'ONU. Ça, c'est une procédure qui, en fait, a assez peu de chances d'aboutir à quoi que ce soit en France. On pourra en reparler plus longuement et plus longuement dans les semaines qui viennent. Mais oui, le fils du président équato-guinéen a contesté les poursuites engagées contre lui en France, en faisant valoir notamment l'immunité réservée normalement aux dignitaires, aux chefs d'État et aux ministres et autres serviteurs des États. Ça a été refusé au mois de décembre par la Cour de cassation, la plus haute instance française, parce que les juges ont estimé que les détournements reprochés, des détournements de fonds, la corruption reprochée à Théodorin Obiang avait été réalisée, si elle est effective, elle a été réalisée dans un cadre personnel, pour son profit personnel.
Et donc, pas dans le cadre de ses fonctions de ministre, puisque ces détournements ont eu lieu il y a plusieurs années lorsqu'il était ministre de l'Agriculture et de la Forêt.
Absolument. Et quand bien même il était ministre à l'époque, les juges ont estimé que de toute façon, la procédure qui avait été utilisée, ou en tout cas qui lui était reprochée, était telle qu'il ne pouvait pas se valoir d'une quelconque immunité, puisque le patrimoine qu'il est accusé de s'être constitué, il se les constitue à titre personnel et pas du tout au nom de la Guinée équatoriale. On parle d'appartements de 4000 mètres carrés, d'une collection de 17 voitures de luxe, parmi lesquelles des Ferrari, des Maserati. On parle de centaines d'œuvres d'art. Oui. De tout ça, d'une valeur de plusieurs dizaines de millions d'euros à son nom personnel et non pas au nom de l'État de Guinée équatoriale.
Donc il y aura bel et bien un procès à Paris. Reste à savoir quand. La date n'a pas encore été fixée. Il y a peu de chances qu'il soit physiquement présent.
Il n'y a quasiment aucune chance pour qu'il vienne. Ce serait vraiment très, très étonnant. Et d'ailleurs, les avocats des associations et des ONG qui ont engagé les poursuites ne se font pas d'illusions. C'est un procès, pour l'exemple, c'est un procès symbolique qu'ils veulent. Et c'était effectivement la première fois qu'une telle procédure aboutit.
La Guinée équatoriale ne se sent pas concernée par cette décision, a déclaré l'ambassadeur de la Guinée équatoriale en France. D'ailleurs, vous le disiez tout à l'heure, Raphaël, l'État équato-guinéen a saisi la Cour internationale de justice de la Haye, c'est l'organe le plus haut, l'organe judiciaire le plus haut des Nations Unies. Désiré nous demandait si le procès qui s'ouvrira donc dans le courant de l'année 2007 de Théodorin Obiang Nguema, est-ce que ce procès va ouvrir la voie à d'autres procès dans cette affaire de biens mal acquis ?
Alors, on peut pas dire que ce procès va ouvrir la voie à quoi que ce soit. C'est une procédure qui est
indépendante des autres affaires.
Absolument, c'est le juge d'instruction qui enquête sur le cas Obiang Nguema. Ceci dit, il est évident que ça donne une indication de ce que les juges pensent faire dans le cadre des biens mal acquis. L'avocat William Bourdon, qui est l'un des grands défenseurs des populations, en tout cas qui se présente comme ça, qui est le président de plusieurs associations et qui défend aussi plusieurs associations, disait c'est un procès important parce que c'est le premier. Et effectivement, il y a aujourd'hui en France trois autres procédures qui sont engagées. Une qui concerne le président congolais Denis Sassou Nguesso, une qui concerne l'ancien président centrafricain François Bozizé et une qui concerne l'héritage de Omar Bongo au Gabon. Ces trois procédures ne sont pas encore arrivées au point d'un renvoi devant un tribunal correctionnel, mais effectivement, la décision qui a été prise la semaine dernière laisse entendre que les juges sont plutôt favorables à un renvoi, avec une question, ce qui est vrai pour le fils d'un président, est-ce que c'est vrai pour un président, et surtout pour un président en exercice, je pense notamment à Denis Sassou Nguesso, qui a porté plainte en France contre cette procédure.
Qui bénéficie de l'immunité.
Et qui, a priori, bénéficie de l'immunité d'un chef d'État en exercice. Donc, peut-il être renvoyé? Ça, c'est une autre question, et il va falloir attendre les semaines et les mois qui viennent pour savoir si les juges prennent ce chemin-là ou non.
Désiré, on a répondu à vos questions?
Oui, tout à fait. Je vous remercie beaucoup.
Merci à vous de votre fidélité à Liverpool, en Grande-Bretagne. Vous nous écoutez sur Internet. À bientôt, Raphaël Rennes. 10h21 à Paris. N'oubliez pas, dans 20 minutes maintenant, notre débat sur l'avenir de Robert Mugabe, le président du Zimbabwe, de plus en plus contesté. Les manifestations vont reprendre à Harare, dans la capitale, puisque la semaine dernière, coup de théâtre, la justice a levé l'interdiction de manifester, une interdiction qui avait été imposée par le gouvernement. C'est donc un camouflet pour le président Mugabe. Est-ce la fin de l'ère Mugabe? On a envie de vous entendre évidemment sur cette actualité. 33 9 693 693 70. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le chef du service des sports d'RFI. On vous a demandé de venir ce matin car on a reçu des questions concernant le Real Madrid et l'Atlético Madrid. Bonjour Darwin.
Voilà. Bonjour Juan Gomez. Bonjour Monsieur Sitakoustan.
Vous êtes à Brazzaville?
Non, à Pointe-Noire.
À Pointe-Noire, autant pour moi, mais vous êtes au Congo malgré tout. On vous écoute.
La FIFA a confirmé l'interdiction du recrutement pour les deux clubs de Madrid, Atlético et le Real de Madrid. Qu'est-ce qui motive cette sanction? Les voies de recours sont-elles possibles?
Alors, le réseau téléphone n'est pas très bon, mais on a compris l'essentiel à Alejandro Valente. C'est vrai que le Real Madrid et l'Atlético de Madrid vont devoir attendre jusqu'en janvier 2018 pour recruter des joueurs. Faut quand même rappeler très rapidement que les deux clubs avaient déjà été condamnés en première instance en début d'année.
Voilà,
ils ont donc fait appel. Et là, le verdict est tombé jeudi dernier. La FIFA les a condamnés. Pourquoi?
Alors, c'est une sanction similaire à celle qu'avait subie Barcelone en 2015, à savoir, on leur reproche d'avoir commis des irrégularités dans le recrutement des joueurs mineurs. Il faut savoir que depuis quelques années, la FIFA a mis des conditions très restrictives et très encadrées pour éviter évidemment le trafic des joueurs mineurs entre les différents pays. Et l'Espagne, qui est un pays en pointe dans la formation des mineurs, n'avait pas pris peut-être toute la mesure de ces restrictions et l'avait un peu... jouer avec les limites de ces textes. Et donc Barcelone, maintenant le Real, l'Atlético, demain peut-être Valence ou Villarreal, plusieurs clubs espagnols sont dans des situations irrégulières ou l'été et vont être sanctionnés ou le sont actuellement comme l'Atlético et le Real.
Alors en tout cas, le Real et l'Atlético disent que la décision de la FIFA est injuste. Ils vont donc saisir le tribunal arbitral du sport.
Voilà, il faut savoir que les deux cas sont un peu différents. Dans le cas du Real, on avait anticipé cette sanction. On savait depuis le mois de janvier qu'il y avait peu de chances d'y échapper. Donc le Real a prévu donc d'avoir un effectif assez conséquent. Ils ont pris Alvaro Morata, ils ont empêché les départs des joueurs comme James Rodriguez ou Isco, dont Zidane auquel Zidane ne fait pas trop appel, afin d'avoir un effectif conséquent et paré à toute éventualité.
Donc le Real a anticipé la sanction de la FIFA.
Absolument. Donc le Real va engager une procédure d'urgence auprès du TAS, estimant que peut-être il peut obtenir une annulation de cette sanction ou au moins une réduction à une seule fenêtre de recrutement, par exemple celle de l'hiver. mais ils veulent pas gagner du temps et repousser cette décision à plus tard. L'Atlético, c'est différent. Ils ont un effectif moins important, donc ils veulent surtout gagner du temps et ils espèrent pouvoir recruter encore en 2017, quitte à repousser l'interdiction à plus tard. Donc, au lieu d'engager une procédure d'urgence, ils ont décidé de demander aux TAS de suspendre la mesure afin de leur laisser le temps de préparer le dossier, ce qui peut prendre plusieurs mois et donc leur permettre de faire appel à des renforts dans les mercatos à venir.
Mais il y a peu de chances que le TAS, le tribunal arbitral du sport, donne raison au Real et à l'Atlético quand on a vu que le Barça avait été sanctionné finalement pour les mêmes motifs.
Absolument. Il faut rappeler quand même qu'en 2009, Chelsea avait aussi été sanctionné pour des recrutements illégaux des mineurs et la sanction avait été annulée par les tribunaux. Donc, ils peuvent avoir encore un espoir, mais c'est pas la tendance la plus importante aujourd'hui.
Affaire à suivre. Merci Alejandro Valente d'être venu répondre à Darvin, qui nous appelait donc de Pointe-Noire. Une dernière question, on va s'intéresser maintenant à l'ancien président du Salvador. Bonjour Mokhtar.
Bonjour Monsieur Juan. Bonjour à tous nos auditeurs.
Merci.
Aux musulmans.
Vous nous êtes... Ah oui, bonne fête, effectivement, vous avez raison de le signaler. Vous nous appelez de Londres.
Oui, je vous appelle de Londres, Monsieur Juan. J'ai une question concernant le Nicaragua. Mm-hmm. Le Nicaragua vient d'accorder l'asile politique à l'ex-président du Salvador, Mauricio Funes. Pourquoi a-t-il demandé l'asile? Et pourquoi l'a-t-il demandé au Nicaragua?
Bonjour Gaspard Estrada.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Alors effectivement, l'ancien président du Salvador dit craindre pour sa vie et son intégrité physique. Il a donc demandé l'asile politique au Nicaragua et il l'a obtenu. Alors quand il dit « je crains pour ma vie, je crains pour ma famille », de quoi parle-t-il?
Bon, je pense qu'il parle tout d'abord de son cas personnel. Il s'agit d'un ancien président donc qui a récemment quitté le pouvoir dans un pays extrêmement violent, le Salvador, avec aussi une gestion en fait très polémique de ses relations avec les maras, donc les gangs qui occupent et qui sont responsables de la violence que vit le Salvador. Le président Funes avait justement essayé de faire une trêve très discutée avec ces gangs. Mais il y a aussi une relation entre Mauricio Funes, qui est un ancien présentateur de télévision, et son parti, le Front Farabundo Martí de Libération Nationale, qui reste aujourd'hui encore au pouvoir. Et Mauricio Funes n'est pas un militant historique de ce parti, qui est une ancienne guérilla. Or, cette guérilla a eu beaucoup, en tout cas, cette ancienne guérilla a eu du mal lors des élections présidentielles de 2014 à s'imposer en fait du fait du bilan en demi-teinte de Mauricio Funes. Et donc, c'est grâce à son action, son implication personnelle, que Mauricio Sánchez Cerén, donc l'ancien vice-président, a réussi à être élu président. Mais il y a eu, de la même manière que les trois précédents présidents du Salvador, des cas de corruption. Mauricio Funes est accusé de corruption. D'ailleurs, aujourd'hui, il y a une audience à San Salvador concernant.
Effectivement. Voilà. Alors, on lui reproche d'avoir détourné la somme de 720 000 $.
Voilà. Alors, ça peut paraître beaucoup d'argent, ça peut paraître très peu par rapport aux standards d'autres pays. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a aujourd'hui une dispute politique pour le pouvoir au Salvador, avec aussi des relations régionales, dans le sens où le Nicaragua, donc le pays qui est en train de recevoir Mauricio Funes, à sa tête aussi un président, Daniel Ortega, qui est un ancien guérillero, donc avec des relations de proximité entre les deux parties. Et pour Mauricio Funes, il s'agit là, de mon point de vue, d'une volonté en fait de sortir de l'échiquier politique salvadorien à moindre coût, dans le sens où aujourd'hui, sa présence pourrait incommoder certains membres du Front Farabundo Martí. Et donc cette sortie du Nicaragua, il faut pas oublier que Mauricio Funes est déjà au Nicaragua depuis plus de 3 mois, lui permet de faire une sortie sans avoir à gêner le processus politique salvadorien.
Voilà, il est au Nicaragua depuis 3 mois, mais il a obtenu officiellement l'asile politique il y a quelques jours. Il va malgré tout affronter la justice de son pays, ou il part avec femme et enfant pour ne plus revenir, en quelques mots?
je pense que pour le moment, ce qui est clair, c'est qu'il n'a pas envie de retourner au Salvador. Mmh. Il dispose du soutien explicite du président de la République salvadorien qui a déclaré à nouveau sa confiance. Mais pour le moment, le plus sûr, c'est qu'il restera au Nicaragua.
Gaspard Estrada, merci beaucoup d'être venu. Je rappelle que vous êtes le directeur exécutif de l'Observatoire politique de l'Amérique latine et des Caraïbes. Restez avec nous à suivre le journal et on revient dans 10 minutes. Nous vous donnerons la parole pour parler de Robert Mugabe, l'ancien président, l'actuel président du Zimbabwe, de plus en plus contesté. À tout de suite.
Priorité santé.